Voici maintenant le médiateur de Radio France. Bonjour Bruno Donnas.
Bonjour Olivia Ferrandi, bonjour à tous.
Alors que les auditeurs ont beaucoup réagi cette semaine au propos de François Fillon sur un hypothétique cabinet noir, vous nous parlez aujourd'hui de journalisme d'investigation. Et ça tombe bien, puisque nous diffusons toutes les semaines sur France Info, samedi Investigation, une enquête exclusive menée par des journalistes de Radio France, sous la houlette de Jacques Monin, directeur des enquêtes et de l'investigation. Jacques Monin qui est justement votre invité aujourd'hui.
Jacques Monin, bonjour.
Bonjour.
Alors l'histoire du cabinet noir, cher à François Fillon, suscite pas mal de fantasmes chez certains auditeurs après la publication du livre « Bienvenue, place Beauvau ». Vous qui êtes un spécialiste de l'investigation, ce genre d'officine existe-t-il pour notamment manipuler les journalistes et faire sortir des informations? Un auditeur, Joseph par exemple, nous écrit « Jamais je n'ai entendu un journaliste s'interroger sur les officines qui vous fournissent les révélations. Qui détient ce type d'informations ?»
Vous avez utilisé le mot de fantasme, donc vous avez déjà quelque part répondu à la question. Il faut revenir aux faits, là, pour le coup. C'est-à-dire, les faits, c'est quoi? C'est François Fillon qui exhibe un livre en disant « Ce livre fait la démonstration qu'il existe un cabinet noir qui agit contre moi. » Quand on lit ce livre, on parle d'un supposé cabinet dont on n'arrive pas à démontrer justement qu'il existe. Donc comment s'appuyer sur un livre qui lui-même reconnaît qu'il n'est pas capable de déterminer qu'un cabinet noir existe? Donc je crois qu'il faut garder un peu de recul. Après, la question de fond, c'est effectivement les gens qui vous informent parfois ont des mauvaises intentions ou ont l'intention de régler des comptes avec des gens avec qui ils ont des différends. Ça existe. Mais la vraie question à se poser, c'est pas d'où vient l'information. La vraie question, c'est est-ce que l'information est vraie ou fausse et d'intérêt public? Si elle est vraie, intéressante, d'intérêt public, à ce moment-là, nous, journalistes, on se doit de la livrer. Notre problème, ce n'est pas de savoir, encore une fois, d'où elle vient. Après, les officines, dont le fait que les informations remontent via notamment les parquets, la direction des affaires criminelles et des grâces, donc auprès du pouvoir politique, et que le pouvoir politique, à un moment donné, distille des informations, ça a toujours existé, à droite comme à gauche, d'ailleurs. Et le canard enchaîné se nourrit aussi de ce type d'informations.
Justement, il y a un autre auditeur, Jean-Philippe, qui s'insurge donc contre des révélations qu'il qualifie de pas neutres, dit-il, qui fausse la campagne électorale et vous y contribuez, dit-il. N'est-on pas un peu dans la théorie du complot, là?
Alors là aussi, la question, c'est est-ce qu'on fausse la campagne électorale ou est-ce qu'on éclaire au contraire les gens avant qu'ils déposent leur bulletin dans l'urne? On peut renverser les choses.
Exactement, ouais.
Je veux dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux savoir aujourd'hui un certain nombre de choses sur François Fillon qu'on ne savait pas alors qu'il avait construit sa campagne sur une image de candidat irréprochable, la moralité, le général de Gaulle mis en examen et j'en passe? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux savoir tout ça aujourd'hui avant de se décider plutôt que de l'apprendre après? Alors vous me direz, il n'y a pas de vérité judiciaire, on ne sait pas si c'est un emploi fictif ou pas. Certes, mais il y a quand même un certain nombre de choses qu'on sait et qui sont avérées maintenant. Le fait qu'il ait employé sa famille, par exemple, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. D'ailleurs, il a reconnu lui-même que c'était une forme de maladresse. Donc ça éclaire le personnage. Le fait qu'il ait accepté des costumes extrêmement chers de la part d'une personne qui elle-même est un intermédiaire, qui a des contrats notamment avec l'Afrique et qui pourrait être en situation de lui demander des services. Le fait qu'il ait comme client de sa société de Zef Conseil une personne, enfin Fimalac, c'est Marc de la Charrière à qui il a donné la Légion d'honneur, qui lui-même emploie sa femme à la Revue des Deux Mondes. La question du conflit d'intérêts, tout ça, on ne le savait pas. Est-ce qu'il vaut pas mieux le savoir aujourd'hui? Je pense que la bonne question est plutôt là.
Donc c'est un peu aussi d'ailleurs la force de la démocratie. Alors concrètement, expliquez-nous justement comment les journalistes mènent leurs investigations, comment obtiennent-ils leurs informations?
Alors là, c'est difficile à dire parce que le journaliste par nature préserve ses sources, donc je ne vais pas vous dire d'où viennent les sources.
On est curieux.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux types d'informations. Il y a celles qui sont de notre propre initiative. Il y a une actualité, par exemple, à un moment donné, regardez l'exemple de la primaire, il est symptomatique. Quand des personnes émergent et postule à la magistrature suprême, forcément, il est légitime qu'on s'intéresse et qu'on aille investiguer pour savoir qui sont. C'est comme ça que l'affaire Fillon est sortie. Il n'aurait pas gagné la primaire, je pense qu'elle ne serait jamais sortie. Et puis après, il y a des infos, effectivement, qu'on va vous donner. Donc, quand vous sortez des informations, un certain nombre de sources vous repèrent et se disent, tiens, ces journalistes-là, si je leur donne des infos, c'est typique de Mediapart et du Canard Enchaîné, par exemple. Si vous avez une info à sortir, effectivement, vous savez que ces journaux-là, c'est leur fonds de commerce. Donc, vous allez leur donner des informations. Ça arrive aussi. Après, c'est plus difficile de travailler sur une enquête préliminaires, ce qui était le cas de la première partie de l'affaire Fillon, que sur des informations judiciaires, tout simplement parce que quand vous ouvrez une information judiciaire, à ce moment-là, vous multipliez les sources, les avocats dans les dossiers, ça passe par toutes sortes de canaux. En enquête préliminaire, c'est plus difficile pour nous de travailler parce que le parquet maîtrise l'enquête avec la police et vous avez en gros deux entrées possibles, mais pas énormément.
Enfin, la semaine dernière, on change un peu de sujet, dans Samedi Investigation, votre émission d'investigation sur France Info, Élodie Guéguin a enquêté sur la sécurité dans les aéroports et sur les failles. Et des auditeurs comme Josette se sont étonnés de certaines informations. Comment pouvez-vous donner les façons d'agir aux terroristes? Vous leur avez fourni une sorte de mode d'emploi. Alors, signaler des failles peut en effet donner des idées.
Alors, les terroristes n'attendent pas qu'on leur donne le mode d'emploi. En général, ils y pensent avant nous. Qui avait imaginé qu'à Nice, un camion fou irait comme ça massacrer autant de personnes sur la promenade des Anglais? Donc non, en général, terriblement, c'est épouvantable à dire, mais les terroristes ont parfois une longueur d'avance par rapport à ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est l'inverse. Si vous dites à des terroristes, il y a une menace, par exemple, avec des drones potentiels, mais on le sait, on travaille dessus. Il y a une menace avec possiblement des missiles solaires qu'on pourrait lancer du sol. Mais on travaille dessus. On a déjà identifié 115 points d'où ces missiles pourraient partir. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les terroristes? Aïe, c'est peut-être pas sur ce terrain-là qu'il faut aller, il faut peut-être aller sur un autre terrain. Donc on peut raisonner à l'inverse. Et puis quand même, il va y avoir plus d'un milliard d'euros dépensés dans des frais de sûreté des aéroports. Je pense qu'il est légitime pour les citoyens de comprendre pourquoi bientôt ils vont devoir payer plus.
Merci Jacques Monin, directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France.
Et merci à vous Bruno Donas, médiateur des antennes. Une adresse pour vous écrire médiateur.radiofrance.fr et puis bien sûr vos comptes Facebook et Twitter.